Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir pour cette toute première webconférence de l'année 2022. Et donc en premier lieu, je vous adresse au nom de Jury Travail tous nos voeux pour cette année 2022. Et nous sommes particulièrement fiers et heureux de continuer à vous accompagner dans toutes vos démarches et problématiques juridiques tout au long de cette nouvelle année. Donc, la webconférence d'aujourd'hui est à destination des chefs d'entreprise, des RH, des élus de CSE et des délégués syndicaux, pardon. Et notre sujet du jour est la préparation des négociations annuelles obligatoires de 2022. Dans certaines entreprises, elles ont déjà commencé, dans d'autres, ça ne devrait pas tarder à démarrer. Alors, avant d'entamer cette webconférence, juste quelques mots pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord un très grand nombre d'articles sur l'actualité juridique. Et c'est surtout un abonnement qui vous donne accès à une base documentaire juridique rédigée dans un langage clair. Cet abonnement vous donne également accès à de nombreux modèles de courriers ou de contrats. Et il vous donne accès enfin à notre équipe de juristes qui est basée à La Rochelle et qui répondent à toutes vos questions par téléphone. D'ailleurs, à la fin de notre webconférence, nous vous communiquerons un lien qui vous permettra de tester notre service en posant votre première question gratuitement à nos juristes. Donc, Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Rosine de Matos, avocate au barreau de Paris, que nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui. En effet, Maître de Matos avait précédemment participé à l'une de nos webconférences sur la gestion de la COVID-19 en entreprise, sujet que nous allons devoir remettre au programme d'une nouvelle webconférence le 20 janvier. Et nous vous partagerons à la fin le lien qui vous permettra de vous inscrire à cette webconférence. Donc, bonjour à vous, Maître, et merci beaucoup d'être parmi nous.
Bonjour Myriam, bonjour à tous, merci à vous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour aborder ce thème ô combien intéressant qu'est celui des NAO. Et avant toute chose, évidemment, meilleurs vœux à tous, que nous ayons une année belle et douce et surtout pleine de challenges professionnels pour tout le monde.
Alors, nous avions mis à votre disposition, comme d'habitude, un formulaire en amont de cette webconférence afin de vous permettre de poser toutes vos questions. Nous les avons transmises à notre invité qui va y répondre au cours de cette webconférence. Nous avons prévu une durée de 45 minutes et nous essaierons de nous y tenir. Et comme d'habitude, quelques jours après cette webconférence, vous recevrez par email la vidéo. Si vous souhaitez poser des questions au cours de la webconférence, je vous invite à les poser dans l'onglet Questions, dans la partie située à droite de la vidéo. Et je remercie vivement ma collègue Elodie qui répondra à vos questions en vous orientant vers des dossiers ou des articles de notre site. Donc pour les habitués, ne vous inquiétez pas, Marine va très bien, elle est juste en congé pour le moment. Et vous la retrouverez à notre prochaine webconférence. Alors, si vous avez besoin de conseils juridiques, je vous invite à contacter Maître de Matos, dont vous voyez les coordonnées sur la présentation. Donc, toutes les questions reçues ont été regroupées sous différentes thématiques. D'abord, l'organisation des négociations annuelles obligatoires, donc l'acronyme consacré, c'est NAO. Ensuite, le déroulement de ces NAO ainsi que les thématiques qui doivent y être abordées. Et enfin, la conclusion des NAO. Donc, commençons par notre première partie avec une première question que je vous adresse, Maître. Quelles sont les entreprises concernées par les négociations annuelles obligatoires? Quels en sont les grands principes?
Merci Myriam. Alors, cette première question pose un petit peu les bases des règles et notamment du cadre juridique qui s'applique en matière de négociation annuelle obligatoire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans un domaine qui concerne la négociation collective. Donc, à titre liminaire, je rappellerai que, effectivement, la loi impose un certain nombre de règles pour ce qui est de la négociation annuelle obligatoire, mais il ne faut pas oublier pour autant que les règles ordinaires et je dirais de droit commun sur la négociation des conventions et des accords collectifs s'appliquent. Pour revenir plus précisément sur les entreprises concernées, alors il faut savoir, et encore une fois, ça sera mon premier point, que on reprend la règle qui s'applique en matière de négociation et de convention, de négociation d'accords ou de conventions collectives. Donc, l'idée, c'est qu'il s'agit des entreprises qui relèvent du champ professionnel qui est défini par le Code du travail et qui englobe l'industrie, le commerce, l'agriculture, les professions libérales, les syndicats professionnels, les employés de maison, les concierges et les employés d'immeubles d'habitation. Deuxième point, et là, on arrive vraiment sur les conditions spécifiques propres à la négociation annuelle obligatoire. Il s'agit des entreprises où il existe une ou plusieurs sections syndicales de syndicats représentatifs. Le point est important dans la mesure où, effectivement, si on est dans une entreprise où il n'y a pas de section syndicale, ou alors dans une entreprise où la section syndicale est rattachée à des syndicats qui ne sont pas considérés comme représentatifs, il n'y a pas d'obligation de mettre en place de la NAO. Alors, je rappelle encore une fois que la question de la représentativité, et notamment dans le droit du travail français, est assez sensible, puisqu'il y a un certain nombre d'héritages qu'on a, notamment pour ce qui est des cinq grandes confédérations. Mais pour ce qui est de la représentativité au niveau de l'entreprise, je rappelle, il s'agit des syndicats qui vont notamment obtenir plus de 10% au premier tour des dernières élections. Dernier point, en termes de conditions, pour obliger les entreprises à être, enfin, pour considérer que les entreprises sont obligatoirement soumises à la négociation annuelle obligatoire, il s'agit des entreprises qui sont pourvues de délégués syndicaux. Il s'agit d'une doctrine administrative qui a été adoptée et qui, depuis, n'a jamais été remise en cause. Et effectivement, la présence d'un DS est une condition obligatoire. Alors, vous allez me dire, mais dans ces trois conditions-là, on ne voit pas apparaître la condition de l'effectif. Et je vous confirme, il faut absolument appréhender cette question de la négociation annuelle obligatoire de manière totalement déconnectée de la question des effectifs. Dès lors qu'on remplit les conditions qui sont visées, et je les rappelle, l'existence d'une ou plusieurs sections syndicales de syndicats représentatifs et également la désignation d'un DS, même s'il s'agit d'une entreprise qui n'est pas, qui ne, qui est inférieure, dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, elle sera soumise à l'obligation de négocier. C'est un point important parce que c'est vrai que dans les entreprises de plus de 50 salariés, la désignation d'un DS, elle intervient, mais la condition, elle peut intervenir, mais la condition préalable, c'est la constitution de la section syndicale. Ce qui n'est pas le cas pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, il y a eu une espèce on va dire, de doute qui a plané. Et c'est vrai qu'on a quelques décisions qui ont tranché le point, et notamment un arrêt de la Cour d'appel de Limoges de 2017, qui nous a bien rappelé que pour ce qui est des entreprises de moins de 50 salariés, les conditions, c'est les mêmes, sont les mêmes. Donc, encore une fois, bien relevé du champ professionnel que nous avons évoqué au tout début de ce paragraphe, et l'existence d'une ou plusieurs sections syndicales de syndicats représentatifs, mais également la question, et en tout cas l'existence de délégués syndicaux dans l'entreprise.
Très bien, merci beaucoup, maître. Donc, pour préciser les choses et pour répondre à une question qui a été posée par chat par Alexandra, donc en l'absence de délégués syndicaux, les NAO peuvent-elles être négociées avec le CSE?
Alors, c'est une question, on va dire, qui a fait débat ces dernières années. parce que, notamment depuis l'entrée en vigueur d'un certain nombre de lois, telles que les lois Rebsamen, et par la suite, on a eu également la loi Travail et également les ordonnances Macron, on a assisté à un phénomène qui a consisté à élargir, en tout cas, la possibilité de conclure des accords collectifs avec un interlocuteur qui ne serait pas un délégué syndical. Donc, quand on a vu ce mouvement intervenir, on s'est posé la question de savoir, si finalement on peut conclure des accords et des conventions collectives avec un interlocuteur qui n'est pas un délégué syndical, cela signifie potentiellement que on peut mettre en place une négociation annuelle obligatoire avec un autre interlocuteur que le délégué syndical et donc, pourquoi pas, avec des membres titulaires d'un CSE. À notre sens, c'est vrai que la question n'a pas été tranchée, de manière précise, notamment par la Cour de cassation. Pour autant, on a quand même une certaine partie de la doctrine qui considère, et moi j'estime à juste titre, que tout ce qui est relatif à la négociation annuelle obligatoire est quand même rattaché à la question du mouvement syndical. On parle, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, de sections professionnelles, de sections syndicales, de syndicats représentatifs. On parle également de délégués syndicaux. On parle de la délégation syndicale qui vient et qui se présente pour négocier. Donc, tout ça nous laisse penser, en tout cas, qu'il s'agit plutôt du précaré des délégués syndicaux et qu'aujourd'hui, en tout cas, en l'état, si dans une entreprise il n'y a pas de délégué syndical, la NAO, ou en tout cas la négociation annuelle obligatoire, n'est pas de mise.
D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, l'employeur. Je reformule la question. Qui doit avoir donc l'initiative d'ouverture des NAO, l'employeur ou les organisations syndicales ? Et une question qui nous a été envoyée, lorsque l'employeur est à l'initiative des NAO, les organisations syndicales peuvent-elles en demander le report ?
Alors, effectivement, l'employeur doit prendre l'initiative d'organiser la négociation annuelle obligatoire. Je rappelle, et on reverra ce point-là un petit peu plus tard, qu'il ne s'agit pas d'une obligation de résultat, il s'agit d'une obligation de moyens. Donc, son obligation, c'est mettre en place la négociation annuelle obligatoire. Pour autant, il n'a pas d'obligation de parvenir à un accord. Il doit le faire, effectivement, dans un certain délai que nous verrons tout à l'heure. Néanmoins, s'il ne le fait pas, effectivement, il est possible... Et on le verra, ça fait partie des questions qui ont été posées. Les organisations syndicales peuvent également prendre l'initiative de manière à pallier, entre guillemets, la carence de l'employeur. Lorsque l'employeur est à l'initiative, la question est de savoir si un report est possible. Alors, il faut savoir qu'en matière de négociation annuelle obligatoire, il est possible notamment de conclure ce qu'on appelle un accord d'adaptation qui permet notamment de prévoir le calendrier, les thèmes, la fréquence des réunions. Lorsque nous sommes dans une telle situation, il est vrai que demander un report paraît surprenant puisque les parties se sont déjà mis d'accord sur un certain calendrier. Par ailleurs, il ne faut pas que cette demande paraisse dilatoire, c'est-à-dire de manière à perdre un petit peu, à faire perdre du temps et de manière injustifiée. Donc, je dirais qu'il faut être prudent avec ces questions de report en fonction de la situation dans laquelle on se trouve.
En effet. Alors, justement, quels sont les recours si les négociations annuelles obligatoires ne sont pas organisées dans l'entreprise, dans les délais impartis, et quelles sanctions peuvent être encourues ?
Alors, on a permis, je le disais, aux organisations syndicales, effectivement, de pallier la carence de l'employeur, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on lui laisse le monopole, et si jamais il ne déclenche pas la négociation, on serait dans une situation où l'entreprise, finalement, n'aurait pas eu de négociation, et les salariés, surtout, seraient privés de la possibilité éventuelle de bénéficier d'avantages qui seraient issus de cette négociation. Donc, on a donné la possibilité, effectivement, aux organisations syndicales de prendre l'initiative, sachant que on apprécie différemment la situation en fonction du thème de la négociation. C'est-à-dire que, en termes de laps de temps, on va regarder notamment si on est en matière de négociation annuelle sur la rémunération, sur le temps de travail, sur la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle, si on est sur ce thème-là, par rapport à la dernière négociation, on va laisser un délai de 12 mois. Passé ce délai, les organisations syndicales peuvent prendre l'initiative de organiser la négociation annuelle obligatoire et donc elles vont en informer l'employeur qui, lui, de son côté, doit effectivement dans les 8 jours transmettre la demande aux autres organisations représentatives et ensuite la négociation s'organise dans un délai de 15 jours. Si on est sur un autre thème qui est celui de la gestion des emplois et des parcours professionnels, le cas échéant, il faut savoir que cette négociation, en tout cas ce thème-là, qui concerne encore une fois que les entreprises qui ont plus de 300 salariés, là, pour le coup, ce qui se passe, c'est qu'on a un délai qui est un peu plus long, qui est un délai de 36 mois. Donc, le point, on va dire, névralgique dans ce type de situation va être de déterminer en réalité quel sera le point de départ de prise d'effet de ce délai-là. Et c'est pour ça qu'on va le voir un petit peu plus tard, la question notamment du procès-verbal de désaccord peut être un point important à négocier, même si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des thématiques de négociation, sur des propositions, parce qu'à partir de ce point de départ-là, pour l'année suivante, va démarrer en fait le calcul de ce fameux délai et donc la possibilité après pour les organisations de prendre l'initiative de la négociation en cas de carence de l'employeur. Si jamais l'employeur, attention, ne se met pas en conformité, c'est-à-dire qu'il refuserait à la suite d'une demande d'une organisation la mise en place de la négociation, il risque de se mettre et de se rendre coupable, de se mettre dans une position, de se rendre coupable de ce qu'on appelle le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical. Et le cas échéant, il faut le savoir, les peines sont 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende, voire en cas de récidive, 2 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Donc, ce n'est pas négligeable et surtout, ça c'est ma recommandation, lorsqu'on sent que les relations sont tendues, il vaut toujours mieux, effectivement, brandir la menace du délit d'entrave de manière à calmer un petit peu les esprits et pouvoir déclencher cette négociation que tout le monde attend.
Très bien. Donc, je pense que ça répond en partie à la question d'Éléonore qui demandait sous quel délai l'employeur devait ouvrir les NAO. Et donc, manifestement, votre employeur a dépassé les délais.
Donc, attention, parce qu'encore une fois, la situation n'est pas neutre dans ce type de circonstances.
Alors, donc nous allons maintenant aborder le déroulement des NAO et les thématiques à aborder. Dans cette partie, nous allons évoquer vraiment les dispositions prévues par le Code du travail. En effet, je rappelle que des accords de branche ou des accords d'entreprise peuvent être plus ou moins favorables que ces dispositions prévues par le Code du travail. Il est donc essentiel de vérifier qu'aucun accord d'entreprise ou de branche ne vient modifier ces dispositions. Alors, commençons par le commencement avec la réunion d'ouverture des NAO. Elle doit avoir un contenu spécifique. Quel est-il ?
Alors, si vous me permettez, Myriam, je vais juste faire une toute petite parenthèse puisque vous parliez effectivement de la question de la négociation et de l'articulation entre les différents niveaux de négociation. On n'en a pas parlé, mais juste un tout petit point, si je peux me permettre, sur le niveau des négociations. D'une manière générale, la négociation se passe toujours dans l'entreprise. Évidemment, ce qui se passe au niveau national ou de la branche peut influencer, mais ça ne substitue pas la négociation annuelle obligatoire. Et attention, effectivement, notamment lorsqu'on est dans un groupe où, là encore, c'est l'entreprise qui prédomine. Il peut y avoir, on peut se rattacher à l'accord de groupe si, effectivement, il y a un accord de groupe qui est sur le même thème ou s'il y a eu un accord de méthode, etc., etc. Mais la priorité, encore une fois, c'est toujours l'accord d'entreprise. Donc, une fois qu'on a pris les bonnes dispositions, qu'on n'est pas en délit d'entrave, on a lancé la NAO, il y a ce qu'on appelle la réunion préparatoire. Donc, c'est une réunion qui est organisée par l'employeur, dont vont être, enfin, au cours de laquelle vont être abordées et vont être précisées surtout les informations que l'employeur remettra aux membres des délégations syndicales, la date de cette remise, le lieu, le calendrier, des réunions, enfin, de là ou des réunions ultérieures. Il faut savoir qu'en l'absence d'accord sur ces sujets-là, en fait, l'employeur a la possibilité de définir seul ces points afin que la négociation en cours ne soit pas paralysée. C'est une option. L'idéal, évidemment, étant que les parties se mettent d'accord dans le cadre de la réunion, de manière à ce qu'après, on puisse enclencher, les sujets de fond de manière constructive et sereine. Moi, ma recommandation dans ce type de circonstances, je dirais, c'est peut-être pour l'employeur d'aller un petit peu plus loin, parce qu'il a quand même cette obligation, encore une fois, de mettre en place la négo, pas d'arriver à un accord, mais pour démontrer qu'il a mis les choses de manière effective en marche. Moi, je recommanderais également, au cours de cette réunion, notamment de discuter et de demander aux organisations quelles vont être les personnes qui vont composer la délégation syndicale, puisqu'il y a les délégués syndicaux, mais aussi des salariés, de manière à ce qu'ils puissent ensuite directement convoquer ces personnes-là, par écrit de préférence, et qu'après, on évite toute difficulté sur la question de la convocation. Je rappelle, le cas échéant, que la convocation doit indiquer le lieu, la date et l'heure de la réunion.
Tout à fait, merci. Alors, je vais revenir juste un petit peu sur vos propos précédents. Pardon, je m'étouffe. Puisque Marie-Laure nous pose une question à propos de l'accord d'adaptation et elle se demandait si c'était la même chose qu'un accord de méthode. Pourriez-vous lui répondre sur ce point rapidement ?
Alors, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'un accord de méthode, par exemple dans notre situation, pourrait être conclu avant cette première réunion préparatoire de manière effectivement définir les modalités de la négociation. À la différence, c'est que là, en l'occurrence, en matière de négociation annuelle obligatoire, on a une disposition du code qui nous dit, alors je ne vais pas la lire en substance parce que c'est pas très assez fastidieux, mais elle nous dit que les parties ont la possibilité en fait de négocier sur et de se mettre d'accord sur les thèmes, notamment sur la périodicité, c'est-à-dire qu'on peut modifier normalement, par exemple sur le thème de la rémunération, on négocie chaque année. L'accord d'adaptation permet au contraire de déroger à cette obligation. Et en fait, cet accord-là, il va beaucoup plus loin qu'un simple accord de méthode, puisque là, on va pouvoir effectivement, alors sous réserve de respecter un certain nombre de règles, je pense par exemple à l'adaptation de la périodicité, où on est quand même cadré par les dispositions d'ordre public qui empêchent de modifier la périodicité au-delà de ce fameux délai de 4 ans. Donc, tout ça pour vous dire que ce n'est pas la même chose et que l'accord d'adaptation permet d'aller plus loin, puisqu'il permet aussi de négocier notamment sur les thèmes, donc en rajouter éventuellement, voire peut-être en adapter par rapport au contexte de la situation. Et c'est pour ça qu'il s'agit de deux sujets qui sont différents. D'ailleurs, ils ne se positionnent pas au même moment. Au niveau de l'accord de méthode, celui-ci peut intervenir avant la réunion préparatoire ou même pendant celle-ci, alors que quand on est sur l'accord d'adaptation, c'est-à-dire qu'on va modifier en tout cas notamment les modalités de négociation, mais aussi le cœur même de la négociation, là ça intervient dans la négociation en tant que telle.
Alors, petite parenthèse, puisqu'il y a une question qui revient très fréquemment sur les négociations pendant cette crise sanitaire de Covid. Effectivement, est prévu que les négociations en distanciel devront être favorisées. Alors, ce n'est pas une obligation. Les organisations syndicales peuvent peuvent refuser dans l'absolu, mais c'est vivement recommandé par le ministère du Travail. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur le sujet, maître.
Alors, je dirais que la difficulté, c'est qu'effectivement, vu le contexte sanitaire, on a toujours tendance à encourager la négociation à distance. Moi, je trouve, et pour intervenir auprès de représentants du personnel, alors je sais que le CSE n'est pas évidemment l'interlocuteur dans ce type de situation, mais je sais, pour avoir échangé avec des représentants du personnel, c'est vrai que la négociation quand même de manière physique permet quand même d'échanger de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple et d'avancer plus rapidement sur un certain nombre de sujets. Maintenant, il faut tempérer ceci avec le contexte sanitaire actuel. Peut-être que, justement, dans le cadre des discussions lors de la réunion préparatoire, voire d'un accord de méthode, si celui-ci a eu lieu, de réfléchir de manière, on va dire, constructive et conjointe avec l'employeur, à alterner peut-être des réunions par visio et des réunions en physique. Et surtout, si on opte pour la réunion physique, toujours s'assurer évidemment que celle-ci peut se faire dans le respect des gestes barrières et des règles qui s'appliquent dans le contexte sanitaire que nous connaissons.
Très bien, merci beaucoup, maître. Effectivement, le présentiel est toujours souhaitable, mais des fois, le distanciel, on n'a pas trop le choix et c'est malheureusement mieux que rien du tout.
Tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est pour ça que je pense que lors de cette réunion préparatoire, qui pour certains peut paraître, on va dire, un petit peu anodine, à mon sens, d'un point de vue juridique, déjà, elle est très importante puisqu'elle c'est le top départ, on va dire, de la négociation. Donc, c'est elle qui démarre, en fait, les choses, et notamment d'un point de vue calendrier, il ne faut pas l'oublier. Et par ailleurs, elle permet quand même d'aborder un certain nombre de sujets. Et pour moi, si cela n'a pas pu être abordé avant, peut-être que justement, c'est dans le cadre de cette réunion préparatoire qu'on peut aborder cette question-là et dire, en tout cas, faire passer l'idée que le présentiel reste quand même, même si l'idée n'est pas de revenir sur le contexte sanitaire, mais un petit peu de présentiel à tout le moins, peut-être quand même peut faciliter sur certains sujets la négociation ou à tout le moins les échanges.
Tout à fait. Alors, on revient à notre parcours de notre webconférence, parce que sinon, on va prendre un petit peu beaucoup de retard. Alors, quels documents peuvent être demandés donc, par les organisations syndicales en vue de ces négociations annuelles obligatoires et dans quelle mesure un employeur peut-il refuser la communication d'un ou de plusieurs documents?
Alors, sur la question du contenu des informations à communiquer, il faut savoir que le Code du travail ne fixe pas de liste exhaustive. En fonction de certaines thématiques, on peut être confronté, on va dire, à certaines, enfin, l'employeur peut être confronté à certaines obligations. Je pense notamment sur la question de la rémunération et des salaires effectifs, temps de travail, partage de valeur ajoutée, où là, l'employeur doit absolument communiquer, c'est fixé par le Code du travail, les informations relatives à la mise à disposition. C'est-à-dire que si on a de la mise à disposition dans l'entreprise, les informations doivent être communiquées obligatoirement aux organisations qui vont négocier. D'une manière générale, à mon sens, ce qui doit prévaloir dans ce type de circonstances, c'est le principe de la loyauté. Et d'une manière générale, au-delà de la négociation annuelle obligatoire, dans les relations entre l'employeur et les représentants des salariés au sens large, que ce soit les membres du CSE ou que ce soit les DS, enfin les délégués syndicaux, le principe de loyauté dans la communication est fondamental. Rappelez-vous, on l'a dit, lorsqu'on négocie des accords collectifs et quand c'est le cas, par exemple, avec des représentants du personnel ou même en matière de consultation, le principe est que les délais, par exemple, ne partent que si les représentants de l'emploi de salariés ont eu toutes les informations nécessaires pour rendre leur avis. C'est le même principe en matière de négociation annuelle obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut donner toutes les informations nécessaires pour permettre aux organisations de pouvoir négocier. Alors, dans le cadre d'un accord de méthode, on en a parlé, en amont de la réunion préparatoire ou pendant celle-ci, on peut effectivement également s'interroger ou en tout cas définir un certain nombre de contenus. C'est possible, ce n'est pas une obligation. On peut se pencher toutefois pour avoir une idée, on va dire, du scope, en tout cas de l'étendue des informations qui doivent être communiquées sur la jurisprudence qui a été rendue à la matière et qui a donné quelques précisions. Sur la question de la rémunération, notamment des salariés, on a quelques indices. On a des décisions qui nous ont dit, par exemple, qu'il ne fallait absolument pas communiquer d'informations individualisées. On nous a dit également que les critères d'attribution des primes, lorsque ceux-ci, en fait, ont une, enfin, lorsque les primes, plutôt, lorsque celles-ci ont une importance en termes de masse salariale, ces critères-là doivent être communiqués. On nous a dit également que ce qui était, tout ce qui concernait les grilles de classification, qu'elles soient de nature conventionnelle ou tout simplement interne à l'entreprise, doivent être communiquées. On nous a dit également, notamment sur la question des salaires, qu'est-ce que cette notion de salaire ? On nous a précisé notamment que les salaires bruts devaient être communiqués, que tout ce qui était relatif aux primes et aux avantages en nature également. Et on nous a, enfin, il y a certaines décisions qui nous ont même apporté la précision selon laquelle les accessoires de salaire à caractère collectif quand ils sont issus d'usage doivent être communiqués. À toutes fins utiles, moi, là encore, ce n'est qu'une recommandation personnelle, les négociateurs peuvent, au-delà des informations qui sont communiquées par l'employeur, également d'eux-mêmes prendre l'initiative de se renseigner sur des éléments, on va dire, extérieurs, mais qui peuvent influencer sur la négociation. Je pense évidemment aux informations qui sont notamment communiquées par l'INSEE sur l'inflation, sur le coût du travail, sur le coût de la vie. Toutes ces informations-là, quand elles sont combinées ensemble, elles permettent quand même de donner des indicateurs qui sont importants pour le positionnement vis-à-vis de l'employeur. Nécessairement, chacun n'a pas la même, n'est pas, on va dire, habité par le même impératif. Et il s'agit, en l'occurrence, de données qui sont parfaitement objectives. Là, par exemple, on a, dans le cadre de la préparation de cette intervention, j'ai parcouru un petit peu, moi, des bases de données. Et c'est vrai que sur 2022, ce qu'on nous dit, c'est que compte tenu de l'inflation en cours, qui est à plus de 2% aujourd'hui, et notamment du manque de matières premières, mais également tout simplement de main-d'œuvre, dans certains domaines tels que le bâtiment, on pense, en tout cas, ces éléments-là laissent à penser que les négociations annuelles obligatoires de 2022 peuvent être un moment clé dans la négociation des salaires et des augmentations et qu'on pourrait, dans ces circonstances-là, constater un certain nombre d'augmentations significatives, ce qui voudrait dire entre 2 et 3 %. Donc, vous voyez que au-delà des informations communiquées en interne, on peut également aller chercher de l'information externe, en tout cas de nature qui objective et qui ne prêtera pas à débat. Dernier point sur notamment la question de la jurisprudence qui a été rendue, mais cette fois en matière d'égalité homme-femme. On nous a dit que tous les indicateurs qui étaient présents dans la base de données sociales et économiques, la BDES, étaient importants et devaient être mis à la disposition des négociateurs. Et on nous a dit également que les grilles internes de carrière et de compétences de l'entreprise, c'est une jurisprudence de 2019, donc qui est assez récente, devait également être mise à la disposition des négociateurs. Donc, vous voyez que même si le Code du travail, en tant que tel, ne donne pas de liste, sauf exception, on a quand même un certain nombre de précisions qui ressortent de la jurisprudence. Pour ce qui est des modalités de mise à disposition, évidemment, la base de données économique et sociale est fondamentale. Donc, attention aux employeurs de toujours veiller à avoir en abrégé ce qu'on appelle la BDES à jour. Je rappelle que lorsque ce n'est pas le cas, le risque, c'est encore une fois le délit d'entrave au fonctionnement notamment du CSE, par exemple, puisque ces informations-là doivent être mises à la disposition des représentants du personnel. Mais en tout cas, les informations dans le cadre de négociations annuelles obligatoires, ça peut être, peuvent être mises à la disposition par l'intermédiaire de la BDES, notamment pour ce qui est de l'égalité professionnelle. Dernier point sur la question de la sanction, encore une fois, c'est le même principe qu'en matière notamment de consultation. lorsqu'on est face à un employeur qui fait de la rétention d'informations, on est de la même manière en délit d'entrave. Alors là, ça ne sera pas au fonctionnement du CSE, ça sera à l'exercice du droit syndical. Et les sanctions que j'ai évoquées précédemment s'appliqueront de la même manière.
Très bien. Il y a certains de nos internautes qui demandent des précisions sur la grille interne de carrière. Si vous pouviez faire bref, parce qu'il faut qu'on avance aussi au niveau de la webconférence. Qu'est-ce que vous appelez une grille interne de carrière ?
Alors, dans certaines entreprises, soit on peut mettre en place une grille interne spécifique, soit parce qu'il n'y a pas de grille dans la convention collective, ça arrive, soit parce que la grille de la convention collective n'est peut-être pas adaptée. Je rappelle encore une fois que la liberté contractuelle a une certaine place dans les échanges entre les salariés et l'employeur et qu'on peut adapter, notamment dans un sens qui est évidemment plus favorable pour le salarié, cette grille-là. Et le cas échéant, lorsqu'on a une grille de carrière ou une grille de classification interne, celle-ci, évidemment, doit être mise à la disposition des négociateurs de manière à ce qu'ils sachent, en fait, par catégorie et notamment par sexe, à quel niveau les salariés se positionnent.
Très bien, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Alors, on revient aux thématiques qui doivent faire l'objet des négociations, enfin qui doivent rentrer dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Quelles thématiques doivent faire l'objet d'une négociation annuelle ?
Alors, pour ce qui est des thématiques qui doivent faire l'objet de l'obligation de négociation annuelle, je rappellerai à titre liminaire qu'aujourd'hui, en tout cas depuis les ordonnances Macron, on a une arborescence du Code du travail qui est spécifique. Et elle se déroule en trois temps. Le premier concerne l'ordre public. Le deuxième, c'est ce qui relève du champ de la négociation collective. C'est notamment là où on a justement la question de l'accord d'adaptation. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les dispositions supplétives. Ce qui veut dire que quand on n'a pas d'accord d'adaptation, on bascule sur les dispositions supplétives dans le respect, évidemment, de l'ordre public. Donc, si on est dans une situation où on n'a pas eu d'accord d'adaptation, on va basculer sur les dispositions supplétives et en l'occurrence, ce qu'on nous dit, c'est que l'employeur doit engager chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise et que ça englobe un certain nombre de sujets. Alors, je ne vais pas tous les lister parce qu'évidemment, il y en a beaucoup et qu'on est un peu pris par le temps, mais il y a notamment la question des salaires effectifs, de l'ensemble des salariés. On en a parlé tout à l'heure. Il y a notamment la question de la durée effective et l'organisation du temps de travail avec des sujets clés tels que le temps partiel, mais également la question du taux de majoration des heures supplémentaires. On a également, évidemment, l'intéressement, la participation et l'épargne salariale. Et pour finir, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes. Là, on est sur le premier thème. Sur le deuxième thème, c'est-à-dire l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, on a un certain nombre de thématiques qui sont précisées par le Code. Elles sont de l'ordre de 6. Il y a notamment, pour moi, l'une qui est fondamentale, c'est l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et j'attirerai juste votre attention à tous sur le fait que on a eu aujourd'hui, on a aujourd'hui une petite modification de ce thème-là, puisque avant c'était l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et qualité de vie au travail. Et en fait, il y a eu un ANI qui a été conclu le 9 décembre 2020, qui a été intégré dans le Code du travail au cours de l'année 2021. Et aujourd'hui, il faut avoir une vision un petit peu plus large de cette thématique, puisqu'il s'agit de l'égalité professionnelle entre les femmes, les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de QVT, mais bien de QVCT. Voilà.
Tout à fait, ça avait fait l'objet de notre dernière, enfin nous en avions parlé lors de notre dernière webconférence de l'année dernière.
D'accord.
Alors, quelles thématiques doivent être abordées au moins tous les 3 ans maintenant ?
Alors, la thématique tous les 3 ans, je rappellerai juste en introduction qu'il s'agit de la thématique, de la thématique qui concerne uniquement les entreprises d'au moins 300 salariés, c'est la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers. Il y a évidemment des sous-thèmes qui sont rattachés à cette thématique. Donc, j'en citerai juste quelques-uns pour pas que ce soit trop fastidieux. La mobilité interne, la formation professionnelle, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales, évidemment. Ce qu'on sait par rapport à toutes ces thématiques-là, en tout cas la précision que nous donne le Code du travail, c'est que les négociateurs doivent notamment s'appuyer sur les orientations stratégiques de l'entreprise et ses conséquences.
Très bien, merci beaucoup. Alors, compte tenu du fait qu'on a répondu à plusieurs de vos questions, on a pris un petit peu de retard, je préfère vous prévenir, donc on risque de déborder un tout petit peu le temps imparti. Voilà. Alors, la périodicité des négociations obligatoires peut-elle être modifiée et si oui, comment? Et dans quelles limites la périodicité des négociations peut-elle être augmentée?
Alors, il s'agit effectivement d'une des prérogatives de l'accord d'adaptation que nous avons évoqué tout à l'heure.
Tout à fait.
Qui permet effectivement d'ajuster la périodicité, mais dans une certaine limite, notamment 4 ans. Et pourquoi? Parce que dans les dispositions d'ordre public, au tout début justement des articles qui sont relatifs à la négociation annuelle obligatoire, on nous dit que notamment la question de la rémunération et évidemment l'égalité professionnelle sont des thématiques qui doivent être abordées au moins tous les 4 ans. Donc, c'est pour ça qu'on a retenu cette limite-là, dans la mesure où on peut changer la périodicité. En l'absence d'accord d'adaptation, c'est chaque année. Dans le cadre de l'accord d'adaptation, on peut changer, on peut faire tous les 2, tous les 3 ans. La limite, c'est juste 4. Pourquoi? Parce qu'on se conforme aux dispositions d'ordre public.
Merci beaucoup. Alors, pendant le déroulement des négociations annuelles obligatoires, un employeur doit-il arrêter des décisions unilatérales concernant l'ensemble des salariés? Si oui, dans quel cas?
Alors, j'ai parlé tout à l'heure du principe de loyauté qui prévaut, à mon sens, dans toutes les négociations et dans les rapports d'une manière plus générale entre l'employeur et ses interlocuteurs, notamment lorsque ceux-ci représentent au sens large les salariés. Et là encore, on le retrouve justement dans cette question de quelles sont les prérogatives de l'employeur pendant la négociation annuelle obligatoire, puisque on nous dit que la négociation doit être réelle et non formelle, ce qui signifie évidemment que l'ordre du jour et les revendications des syndicats doivent être discutés de façon approfondie, loyale, avec des propositions qui sont analysées et discutées. Et on va même plus loin, puisque le Code nous dit, tant que les négociations sont en cours, l'employeur ne peut pas prendre de décision unilatérale collective dans les matières sur lesquelles elle porte. Sauf urgence justifiée. C'est un article, c'est 2242-4. Donc, sur la question de la notion des négociations en cours, je parlais tout à l'heure de l'importance de la réunion préparatoire, puisque, évidemment, la réunion préparatoire donne le go pour la question de la notion de négociation en cours. Même si elle est finalement reportée, peu importe, cette date-là, c'est le point de départ. Ensuite, ce qu'il faut déterminer, c'est évidemment la question de la fin des négociations. Alors, lorsqu'on a un accord qui est conclu, on le sait. Lorsqu'on a un désaccord qui est formalisé par un procès verbal de désaccord, c'est simple, signé conjointement. La question sera un petit peu plus sensible si on a un PV, mais qui a été signé unilatéralement par l'employeur. Autre question, quelles sont dans ce type de situation les décisions qui vont être interdites, on l'a dit, sur les matières traitées et celles qui sont de nature collective. Ce qui veut dire que parallèlement à la négociation annuelle obligatoire, l'employeur peut prendre des décisions individuelles pour chaque salarié, enfin pour certains ou chaque salarié, notamment pour en ce qui concerne l'augmentation individuelle personnelle. Mais attention, il ne s'agit pas de détourner le dispositif. Et dès lors qu'un certain nombre de salariés seront concernés par ce type de situation ou de décision, on va estimer qu'on est dans une décision qui sera de nature collective. Dernier point, c'est la question de l'urgence. Aujourd'hui, concrètement, le Code n'a pas précisé ce qu'il fallait entendre puisque c'est l'exception, hein, sauf urgence. Aujourd'hui, on n'a pas de précision. que ce soit par l'administration ou la jurisprudence. Donc, à voir en fonction de la situation. Mais à mon sens, pour l'employeur, aller sur le terrain de l'urgence, ça restera risqué. Dans la mesure où, de manière générale, la jurisprudence nous a quand même clairement laissé entendre que les juges sanctionnent de manière assez rigoureuse les décisions qui sont prises par l'employeur sous couvert d'urgence ou sous couvert de décisions individuelles, de manière à ne pas, encore une fois, court-circuiter la négociation qui est en cours. Et en termes de sanctions, on en a de plusieurs natures. Alors, évidemment, le délit d'entrave peut être utilisé, mais on a tout simplement des décisions où on a vu que les juges avaient considéré que la décision qui avait été prise était nulle. Ils ont aussi considéré que, par exemple, les sanctions qui avaient été prises à l'égard de salariés qui n'avaient pas respecté la décision individuelle étaient également nulles. Et on a même des décisions où le juge a tout simplement suspendu la décision de l'employeur. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très prudent quand on est en matière de négociation annuelle obligatoire et il faut être surtout loyal. On négocie, donc à côté de ça, on n'essaye pas de court-circuiter la négociation en prenant des décisions individuelles.
Merci beaucoup de ces précisions et on va revenir sur le procès-verbal de désaccord, mais effectivement, il vaut mieux s'entendre. Enfin, les Anglais ont une phrase que j'aime beaucoup à ce sujet, c'est « we agree to disagree » et là, c'est vraiment tout à fait ça.
C'est vrai.
Alors, nous abordons donc notre dernière partie. Il reste juste trois questions pour les personnes un petit peu pressées. Voilà, pour vous préciser un petit peu que ça ne devrait pas durer trop longtemps non plus. Donc, c'est justement à propos de la conclusion des NAO. Donc, si les négociations annuelles obligatoires aboutissent à un accord, quelles sont les conditions de validité de cet accord et où doit-il être déposé?
Alors, vous vous rappelez ce qu'on s'était dit au tout début? Là, on repart sur les conditions de droit commun, c'est-à-dire conditions de validité à un accord majoritaire, c'est-à-dire un accord qui va être signé avec un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur du syndicat lors du premier tour des dernières élections professionnelles. Si le syndicat signataire, le ou les syndicats signataires ne sont pas dans cette disposition-là, il faut au moins qu'ils aient atteint le score de 30% et ensuite l'accord fait l'objet d'une approbation par la majorité des salariés dans le cadre d'un référendum. Pour ce qui est ensuite de ce qu'on appelle les formalités, il doit évidemment être notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature par la partie la plus diligente. Évidemment, il doit faire l'objet d'un dépôt auprès de l'administration qui se fait maintenant de manière très facile par la plateforme de téléprocédure. Et enfin, il doit être envoyé au greffe du conseil de prud'homme du lieu de conclusion. Juste une petite précision, certains accords sont toutefois régis par des règles spécifiques. Je pense par exemple aux accords collectifs en matière de salaire, puisque ceux-ci, lorsqu'on les dépose, doivent être accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant, on nous dit, les propositions respectives des parties. Par ailleurs, lorsqu'on est sur des thématiques relatives à la durée du travail, repos quotidien, l'accord en question doit être également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Très bien, merci beaucoup. Alors, une autre question qui nous a été fréquemment envoyée, le comité social et économique doit-il être consulté ou informé sur l'accord de la NAO avant sa signature?
Alors, on en a parlé au tout début, il faut absolument déconnecter de la négociation annuelle obligatoire du comité social et économique, donc il n'intervient pas et d'une manière totalement transparente, il ne doit pas être informé ou consulté sur l'accord qui serait conclu dans le cadre de la NAO. En revanche, n'oubliez pas que dans le cadre des consultations récurrentes du comité, évidemment, il doit être informé puisque si on a une négociation annuelle obligatoire qui va se positionner sur la question des augmentations, la question aussi, par exemple, de la durée du travail, ça fait partie des thématiques qui rentrent nécessairement dans les informations qui sont communiquées au comité dans le cadre des consultations récurrentes. De la même manière, l'obligation de l'employeur de mettre à jour systématiquement la base sociale de données, enfin la base de données économiques et sociales, implique de communiquer les informations aux représentants des salariés dans le cadre du CSE, et c'est dans ce cadre-là qu'ils en seront informés. Mais cette information arrive systématiquement a posteriori, et il s'agit uniquement d'une information et non pas d'une consultation sur l'accord en question.
Très bien, merci beaucoup. Et enfin, dernière question à aborder. En cas de désaccord, donc on doit établir un procès verbal de désaccord. Que doit-il contenir et peut-il mentionner des décisions unilatérales? Ça, c'est une question qui nous a été envoyée également. Et doit-il également faire l'objet d'un dépôt?
Alors, procès verbal de désaccord doit effectivement être conclu lorsque on ne parvient pas à négocier. Je l'ai dit au tout début de l'intervention, la négociation annuelle obligatoire pour l'employeur est une obligation de moyens, ce n'est pas une obligation de résultat. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Le cas échéant, on signe ce fameux procès verbal qui donne lieu à un dépôt et on va dire que la situation la plus simple, c'est quand on a un procès verbal qui est signé conjointement. Lorsqu'on a un procès verbal qui est signé de manière unilatérale par l'employeur, ça laisse toujours plein à certains doutes sur les thématiques qui ont été ou non, enfin qui ont fait ou non l'objet d'un accord. Il faut préciser également qu'on peut avoir un procès verbal de désaccord partiel, c'est-à-dire qu'on a pu réussir à se mettre d'accord sur certains sujets, mais pas sur d'autres. Le cas échéant, ce doit être mentionné dans le procès verbal. D'une manière générale, le procès verbal de désaccord permet de démontrer à tout le moins que l'employeur s'est conformé à son obligation. D'accord ? Ça, c'est absolument fondamental. Et en termes de contenu, d'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va effectivement mentionner le désaccord. Je l'ai dit, les sujets, puisqu'on peut avoir un désaccord partiel. Plus précisément, les propositions respectives des parties en leur dernier état. Et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Et dernier point, les mesures nouvelles éventuelles que l'employeur souhaite mettre en place. Et le cas échéant, il n'a pas les pleins pouvoirs, si je peux dire, en la matière, puisqu'il faut que ces nouvelles mesures soient conformes ou en retrait par rapport à ces dernières propositions. Elles ne peuvent pas être plus favorables que celle qu'il avait lui-même formulée auprès des organisations syndicales représentatives, dans la mesure où, je le rappelle, il doit agir de manière loyale. S'il n'a pas accepté, dans le cadre de la négociation, de se conformer ou en tout cas d'agréer aux propositions et de formule d'être dans un positionnement plus favorable pour l'employeur, pour les salariés, il ne peut pas finalement ne pas avoir donné, on va dire, ne pas avoir donné son accord aux organisations et finalement prendre la décision. On est dans un principe de loyauté, donc ce type de situation ne peut pas intervenir. Dernier point sur lequel moi j'insisterai par rapport à la question du procès verbal de désaccord, c'est que ce procès verbal-là va donner encore une fois le point de départ, rappelez-vous, des délais qui permettent aux organisations syndicales de prendre la main sur l'initiative de la négociation annuelle obligatoire, donc toujours faire attention, évidemment, au procès verbal qui a été conclu l'année précédente, le cas échéant. Et pour l'employeur, ça fixe le moment où il va pouvoir reprendre la main, puisque, rappelez-vous, on l'a dit, pendant la négociation, il ne peut pas prendre de décision collective sur les thèmes de la négociation. Et une fois que la négociation est terminée, il reprend la main, après, sous réserve de respecter le principe de loyauté.
Très bien, merci beaucoup, maître.
Je vous en prie.
Alors, nous arrivons donc au terme de notre webconférence. J'espère que ce format vous aura plu. En tout cas, le sujet vous a beaucoup intéressé. Vous avez posé énormément de questions pendant toute cette webconférence. Et encore un grand merci à Élodie qui y a répondu patiemment tout le long et qui n'a pas chômé. Donc, n'hésitez pas à contacter Maître De Matos, dont je vous remets les coordonnées à l'écran pour tout conseil juridique supplémentaire. N'hésitez pas également à nous donner votre avis sur cette webconférence. Hein, votre avis nous importe. Et Elodie vous transmet actuellement le lien par chat pour vous permettre de nous donner un avis. Excusez-moi. Et comme annoncé donc au début de la webconférence, nous vous donnons donc la possibilité de poser votre première question gratuitement à nos juristes. Là encore, Elodie vous transmet le lien via la fenêtre de chat. Petit message à mes collègues élus qui seraient présents à cette webconférence. Je vous invite à nous rejoindre dans nos deux groupes privés sur Facebook et sur LinkedIn où nous pourrons continuer les échanges. Enfin, je vous donne donc rendez-vous pour notre prochaine webconférence. Elle aura lieu jeudi 20 janvier à 14h et nous y évoquerons donc les dernières mesures sanitaires à appliquer en entreprise, les éventuelles conséquences de la mise en place du pass vaccinal qui est en cours de discussion en ce moment. Et donc, comme aujourd'hui, cette webconférence s'adressera aux chefs d'entreprise, aux RH et aux représentants du personnel. Et Elodie vous transmet le lien, enfin vous a transmis, pardon, le lien d'inscription. Donc merci encore, Maître de Matos, d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi. Et merci d'avoir répondu aux nombreuses questions de nos internautes.
Merci à vous, Myriam. Merci à tous.
Merci à tous d'avoir assisté à cette webconférence. Au revoir et à très bientôt.
Au revoir.